Voici la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à tous. Et toi, c'est quoi ta drogue ? C'est la question posée par le toujours très inspiré mensuel Néon dans un intéressant dossier consacré donc aux addictions. Ma drogue, c'est le chocolat noir, répond Lucie, 24 ans. Ma drogue, c'est le sexe, répond Benjamin, 30 ans. D'autres disent le café, les livres, le voyage, la bière, les câlins, la cigarette, le shopping ou bien encore l'odeur du kérosène des avions. J'adore ce parfum et tout ce qu'il annonce, confie Brandon, 29 ans. Et ce que le kérosène des avions annonce, évidemment, c'est le voyage. Mais ce matin, c'est à d'autres drogues que s'intéresse Libération, cannabis, cocaïne, ecstasy, qui serait de plus en plus présent dans les stations de ski françaises.
D'ailleurs, le titre à la une du journal Libé, c'est Touche-nouf sur les pistes.
Touche-nouf ! Ce qui donne en page intérieure la défonce sur les cimes, souci pour les stations. Reportage en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, à Val Thorens, à Tignes ou encore Courchevel, où se retrouvent désormais de très nombreux fêtards, des fêtards de plus en plus nombreux, des fêtes dans les boîtes de nuit, des fêtes l'après-midi dans les bars d'altitude, le clubbing des sommets, né il y a une dizaine d'années, sans compter les soirées privées qui parfois sont organisées dans des chalets de luxe, un vivier de consommateurs, occasionnels ou réguliers. Et qui dit consommateur dit évidemment dealer. Il y a régulièrement des interpellations, mais la police a bien du mal à enrayer le trafic. Comme l'avait résumé dans l'un de ses réquisitoires, l'ancien procureur de la République d'Albertville, en station, il y a parfois plus de poudreuses sous les tables que sous les skis.
Et cela dit, c'est bien la vraie neige hein, que l'on retrouve ce matin
oui.
Dans une bonne partie des journaux.
Avec la photo de deux femmes, la photo de l'équipe, les montres de dos, la photo de la presse de la Manche, les montres de face et celle de Midi Libre, est une prise de vue en plongée. Et ces femmes, ce sont les deux hockeyeuses qui, hier, ont porté ensemble la flamme olympique pour l'ouverture des 23e JO d'hiver. L'une est sud-coréenne, l'autre est nord-coréenne et pendant 15 jours, elles vont donc jouer dans l'équipe coréenne unifiée de hockey sur glace, la flamme de la paix pour des jeux historiques en Corée, commente Midi Libre. Un hymne à la paix pour l'ouverture des jeux, titre la presse de la Manche, tandis que l'équipe explique que les deux Corées n'ont fait qu'une. Autre signe de rapprochement, la poignée de main entre le président sud-coréen et la cadette de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Rapprochement qui était impensable il y a encore quelques mois, note Bernard Stéphan dans l'édito de La Montagne, avant même d'avoir débuté. Ces JO-là sont réussis, abonde Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. Les organisateurs ont réalisé un exploit, réunir deux nations officiellement encore en guerre. Et même si la réunification n'est pas pour demain, reconnaît Claude Veil dans Nice Matin, avec l'air du monde extérieur, un virus vient de pénétrer en Corée du Nord, celui de la liberté, de la politique et des jeux. Dossier à lire dans Le Monde, quand l'esprit olympique et les podiums racontent l'époque et les relations internationales. 1936, le triomphe de Jesse Owens devant Hitler. 1956, violente bagarre entre les équipes de waterpolo et de Hongrie. De Hongrie et du RSS, quelques semaines après l'insurrection de Budapest, 1968, les Américains Tommy Smith et John Carlos lèvent le poing pour dénoncer la ségrégation aux États-Unis. Les deux Coréennes, portant la flamme hier, resteront sans doute dans l'histoire. Cela dit, dans Le Monde, daté de demain, Philippe Mesmer rapporte que la cérémonie d'ouverture a fait un bide. De nombreux billets n'ont pas été vendus, tout simplement parce que ces jeux n'intéressent apparemment pas les Sud-Coréens. Il faut dire que le pays n'a pas de star dans ces sports-là. Il faut dire aussi que le stade est construit dans la zone la plus froide et venteuse de la région. Et puis ces derniers jours, Pyeongchang est touché par une épidémie de gastro-entérite. Ceci, évidemment, n'arrange pas les choses.
Et il y a quelques minutes, le Nord-Coréen Kim Jong-un qui a invité donc le président sud-coréen à Pyongyang. Et maintenant, Frédéric, la presse qui s'intéresse à la compétition.
Et aux chances de médailles françaises dans Le Parisien, portrait de la sprinteuse Justine Breza et du patineur de vitesse Thibaut Fauconnet dans Libération, portrait de la championne de ski alpin Tessa Worley, photo du descendeur Brice Roger dans l'équipe et puis Du côté des coulisses, on relève deux incidents. Un incident diplomatique à cause d'un smartphone, c'est-à-dire sur le Huffington Post. Pensant bien faire, le CIO a offert à tous les athlètes un appareil Samsung dernière génération. Enfin non, justement pas à tous les athlètes. Car en Corée du Nord, comme en Iran, les smartphones peuvent tomber sous le coup des sanctions internationales relatives aux produits de luxe. Et les Iraniens ont alors crié au scandale. L'ambassadeur sud-coréen à Téhéran a même été convoqué au ministère des Affaires étrangères face au tollé. Le CIO a fait finalement machine arrière. Les athlètes iraniens ont donc eu droit à leur smartphone. Mais ils devront le rendre à l'issue des JO. L'autre incident est nettement plus anecdotique et c'est l'AFP qui raconte. Les cuisiniers de la délégation norvégienne se sont emmêlés dans les chiffres. Pour nourrir les sportifs, ils avaient projeté de commander 1500 œufs. Mais ils ont malencontreusement ajouté un zéro et se retrouvent aujourd'hui avec une cargaison de 15 000 œufs, 124 œufs par estomac durant toute la quinzaine. Les skieurs norvégiens ne manqueront pas de
ça
protéines.
Ça plus la gastro-entérite.
On espère qu'ils sont accros à l'omelette norvégienne.
Oui, effectivement. Dans la presse régionale maintenant, Frédéric, quelques inquiétudes à la une.
Dans l'Ardennais, on s'inquiète du recyclage des éoliennes. Énergie propre, les éoliennes, mais quand elles arrivent en fin de vie, savoir qu'en faire est un casse-tête. Dans l'Éclair et la République des Pyrénées, on s'inquiète de la possible réintroduction des ours dans les montagnes béarnaises. Une lettre signée par le Premier ministre confirme que les services de l'État planchent actuellement sur le sujet. Et puis dans le Courrier de l'Ouest, on s'inquiète de l'ouverture d'un bar associatif d'extrême droite à Angers. Les identitaires font leur nid en Anjou, c'est le titre à la une. À ce propos, politique, le Parisien revient sur la petite victoire de Jean-Marie Le Pen. Hier, la justice a confirmé que même exclu du FN, il gardait sa qualité de président d'honneur. Et le père de Marine Le Pen compte maintenant s'inviter au congrès du parti en mars. Il le dit dans le Figaro, je m'y rendrai s'il le faut avec le recours de la force publique et si on me l'interdit, c'est une violation de la loi. Jean-Marie Le Pen, accro au respect de la loi, c'est tout de même sacrément cocasse. Pour le reste, le Parisien nous donne ce matin le mode d'emploi pour réussir un bonhomme de neige. La carotte sur le nez, les branches pour les bras, il y a même un dessin des fois qu'on ne comprendrait pas. On a un peu l'impression d'être pris pour des imbéciles. Plus intéressant pour finir, c'est à lire dans Libération, une longue enquête consacrée au retour en grâce d'un mets long et méticuleux à préparer. Un mets très longtemps galvaudé mais qui, à la faveur d'un grand concours international et d'une réhabilitation par plusieurs chefs, est en phase de devenir un plat très chic et courtisé. Ce plat, c'est le pâté en croûte. Visiblement, on peut être accro au pâté en croûte.
Pâté en croûte et omelette norvégienne au menu de cette revue de presse de Frédéric Pommier. Merci Frédéric.